Ça va mieux, Jacques Laverne, bonjour. Ça va mieux, l'émission où l'on commente l'actualité du monde. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Comme à l'accoutumée, pour commenter cette actualité, je suis en compagnie, alors on fait dans l'ordre ou dans le désordre, je ne sais pas, Jean-François Mignars de la Ligue Nationale des Droits de l'Homme et de nombreux combats, autres combats.
Bonjour.
Pierre Larouille, communicant, économiste, essayiste, on ne sait plus tellement il a d'étiquettes et de qualité. Claire Morin-Bridé, notre journaliste stagiaire de l'ISJT.
Oui, bonjour.
Et Léonore Socaras, franco-colombienne, chargée d'études politiques, que nous aurons tout à l'heure en duplex, puisqu'elle est universitaire, elle est à son université. Mais l'un des sujets, et je vais vous les annoncer, nécessitera sa présence et sa voix. Donc nous allons parler, ça ne vous étonnera pas, des élections législatives françaises. Et puis nous parlerons de l'élection d'un président de gauche en Colombie. Et ensuite, nous terminerons par les rubriques habituelles que vous connaissez bien. Voilà, c'est CVM, c'est le programme, c'est sur Esprit Occitanie, la radio web. Ouvrez les guillemets, ce monde a acquis une épaisseur de vulgarité qui donne au mépris de l'homme spirituel la violence d'une passion, fermez les guillemets, c'est de interrogatoire QCM. Allez, c'est de Baudelaire. Vous voyez, c'est pas nouveau, mais bon, ça marche toujours.
Hein. Je viens de louper l'épreuve
de culture générale
du baccalauréat.
Bien, premier sujet, la nouvelle Assemblée nationale. Alors, quelques mots introductifs. Il y a tellement de choses à dire, mais nous aurons tout le temps, et vous aurez tout le temps de commenter. Et pour ma part, mon commentaire est le suivant. Enfin, nous en avons terminé des mois de campagne insipide où le débat d'idées a purement et simplement trépassé, remplacé par des invectives, des approximations, des combats d'égo, pour ne pas dire de coq, avec au final deux grands absents pourtant primordiaux pour l'avenir de nos civilisations, la culture et les graves problèmes environnementaux qui obère d'ores et déjà notre avenir. Et surtout, une abstention record et inquiétante pour l'avenir de notre démocratie, une abstention riche d'enseignements. À l'évidence, le personnel politique est totalement hors sol et n'est plus capable de produire un discours et des idées de nature à intéresser les électeurs et surtout les plus jeunes. Très inquiétant. Les manœuvres d'appareil, les montages et les alliances, plus ou moins artificielles, pour ne pas dire fumeuses, trahissant à l'évidence plus un désir de règlement de compte ou de mise en avant personnelle, en ont lassé beaucoup. Tout le monde ne saurait être dupe et l'indécent sauvetage de leur place, certainement confortable, par des parlementaires, notamment PS, relève plus de l'indécence que de la haute politique. Quant au président de la République, il reste fidèle à ce que nous avons connu durant son premier mandat et à sa méthode très personnelle, secrète, de direction du pays, qui n'a pas évolué d'un iota. Il a déjà oublié ce qu'il doit à ses électeurs et surtout que son élection, finalement, est due au réflexe républicain de bon nombre de Français voulant faire barrage au risque constitué pour une élection d'un membre du FN. Je vous rappelle l'excellent titre du livre de L'homme et Davé, Le traître et le néant. Tout est dans le titre et tout est aussi dans le livre, d'ailleurs. Alors, certes, son groupe parlementaire.
Une partie seulement.
Une partie, oui, il y en a d'autres. Pierre commande. Certes, son groupe parlementaire s'est considérablement réduit et celui des gauches diverses et variées a augmenté dans de belles proportions. Ce qui aura deux effets, un positif et un négatif. Le positif est qu'enfin, nous ne verrons plus le triste spectacle d'un parlement godillot à la botte de son maître. Le négatif est que le président, n'ayant plus de majorité absolue, il devra s'appuyer pour gouverner sur des alliés qui ne pourront être bien évidemment que des courants droitiers de M. Bayrou, Philippe, ainsi que les élus des Républicains. Nous sommes donc en plein paradoxe. Plus d'élus de gauche, l'Assemblée nationale engendrera une politique plus marquée à droite. Ce second quinquennat ne sera pas pour ce président, second et dernier d'ailleurs, pour ce président très sûr de lui et dominateur, un long fleuve tranquille. Il s'agit là pour lui d'un échec patent et finalement pas si étonnant pour ceux qui savent regarder loin en politique, comme nos amis autour de la table bien sûr. Il a réussi, ce bon monsieur Macron, à braquer tellement de Français, à être si éloigné d'eux et de leurs problèmes graves et quotidiens, qu'il a fait le lit des populistes, à commencer par ceux du Front National, qui pour le coup crève le plafond dit de verre en envoyant 87 députés à l'Assemblée. Une première inquiétante qui ne sera peut-être pas une dernière au train où vont les choses. Qui veut commencer ? Ne vous précipitez pas, surtout. Les silences ne sont pas radiophones. Allez, Pierre, qui a...
Je viens de dire un mot, mais c'est simplement pour répéter ce que j'ai dû dire ici il y a 3 semaines à peu près. Sur le fait que la campagne présidentielle avait révélé quelque chose de très neuf, c'est une campagne qui ne s'est pas déroulée sur le désir. Et j'avais émis l'idée que ce qui s'était créé est un nouveau concept qui est le désir destructif. Alors, la présidentielle a fait semblant de slalomer et on a quand même eu une réélection dont on se souvient quand même quand on la commente que en dehors d'un déplacement de voix de 6 ou 7 points de Mme Pécresse sur Macron les 10 derniers jours, nous aurions eu 3 candidats sur 1 ou 2 points, c'est-à-dire une grande indétermination que l'on retrouve finalement à la fin. Donc on est effectivement dans un truc très curieux, d'un désir destructif qui va très loin, parce que finalement, le désir destructif du peuple, comme dirait M. Mélenchon, a rejoint celui du président de la République, qui, à vouloir mettre par terre tous les partis traditionnels, s'est tellement bien employé et a tellement bien réussi que les deux se sont maintenant retrouvés sur le terrain que nous connaissons. C'est-à-dire, je me souviens, il y a quelques jours, m'être fait passablement, pas ici, parce que je sais votre finesse d'analyse.
Et notre courtoisie.
Notre amitié qui pardonne beaucoup de choses. Je sais que vous aviez été très gentil avec moi quand j'ai mis l'idée que ce n'était pas parce que habituellement on donne toujours une majorité au président que cela durerait toujours. Eh bien, nous y sommes. Il n'y a plus de majorité, c'est-à-dire que nous rentrons là maintenant dans un vrai match qui est finalement qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qu'on est capable de produire politiquement. Demain, moi j'ai quelques scénarios en tête, donc on pourra en discuter.
Et prendre date pour voir s'il se vérifie.
Petit jeu, toujours très léger.
Oui.
Mais faire des prévisions sur l'avenir, c'est toujours terrible.
Ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fait, le seul avantage qu'ont les équipes macroniennes, c'est de bien traiter la sémantique. Et donc, je crois avoir dit il y a 6 mois qu'ils allaient inventer le nouveau CNR. Ils l'ont fait avec le Conseil national de la refondation. Je crois que ça annonce effectivement ce qui va se passer par la suite. C'est comment Macron va continuer à essayer de passer par-dessus ce qu'est la démocratie. Et je crois que dans une période de désir destructif, ce qui marquera la construction qui va se produire demain, c'est une construction sur la peur.
Jean-François.
Oui, enfin, je reprends l'entame de l'excellent éditorial de Jacques. La campagne est terminée. Alors, je partage quoique, parce que la vacuité du débat politique qui a quand même marqué effectivement la campagne et l'impression de débats, quand il y en a eu, qui sont hors sol, de chausse-trappe, de stratégie, plus ou moins délétère, hein, c'est effectivement terminé. Et j'ajoute quoique, ce qu'on est en train de voir se réouvrir, c'est peut-être la même chose, mais dans le registre aujourd'hui d'un fonctionnement qui est un fonctionnement hors période électorale, d'une Ve République, donc quand même, on commence à pouvoir se dire... Même si on est admirateur du tandem de Gaulle-Debré, quelle vit peut-être ces derniers moments parce que là, pour le coup, tout ça est en train de partir un petit peu à volo. Sur le fait que la campagne s'est jouée sur le destructif, ce qu'évoque Pierre, j'ai pas cette perception-là. J'ai été étonné, moi, du fait que, alors que c'était parti pour être... ça aurait pu être extrêmement violent au point de vue du contenu. Et d'ailleurs, la percée du Rassemblement national montre bien que la violence est latente, que les idées délétères de haine, de rejet de l'autre, de raccourcis dans la pensée, c'est présent dans le pays... On a eu, alors entre guillemets une divine surprise, mais ne serions pas naïfs, une période dans laquelle, alors que ça ne s'annonçait pas comme ça, des gens sont allés voter, pas uniquement pour faire battre les autres. Et là aussi, ne soyons pas naïfs. Hein, la gauche recomposée, pour qu'elle soit recomposée encore, il faut constater qu'elle était quand même largement décomposée en amont, a amené autour de moi. Moi, j'ai vu des gens qui se sont réintéressés à la... Alors, là aussi, peut-être que c'est un faux semblant, c'est un jeu d'ombre. Se sont réintéressés à un certain nombre de choses sur des questions qui étaient des questions, pour le coup, authentiquement politiques, de mon point de vue, sur la question de l'économie, sur la question de l'écologie, pas uniquement pour savoir qui c'est qui soit allait occuper le fauteuil confortable de l'Élysée ou, dans la deuxième phase, avoir une place à l'Assemblée nationale. Voilà. Je pense qu'il y a... C'est peut-être la seule perspective ou la seule lueur qui nous reste, encore une fois, dans les semaines ou des mois qui vont venir, qui vont être l'objet de toutes les manips, tendance à utiliser tout ce qu'il est possible d'utiliser pour avoir le pouvoir. Et là-dessus, on a un président de la République qui nous a fait largement la démonstration qu'il était... Donc c'était une des préoccupations essentielles. On a une petite lueur, de mon point de vue, d'espoir sur le fait qu'on va... Il y a encore du politique, il y a encore un peu de politique, du politique dans la politique, n'est-ce que ça peut avoir de péjoratif, c'est-à-dire la manière dont c'est vécu, dont les 53% de personnes qui n'ont pas participé au débat, quand on enlève les entre guillemets pêcheurs à la ligne, signe le fait que effectivement, à quoi bon tout ça, voilà.
Chloé.
Alors, ce sera certainement une analyse moins poussée, hein, avec tout ce qui a été dit, mais si je peux relever un petit point positif de l'issue de ces élections législatives, et ça fera très certainement pas l'unanimité autour de la table. Mais c'est le fait que la NUP, donc la nouvelle union dont vous parlez, Jean-François, soit le deuxième parti qui occupe la place à l'Assemblée. Et alors, même si le parti de Macron est celui qui occupe le plus de sièges, je pense que la présence de cette gauche recomposée, justement, viendra, je l'espère, tempérer ces décisions, bien que le RN soit très présent, comme on l'a dit aussi précédemment. Voilà, donc s'il y a quelque chose dont je me réjouis personnellement, c'est ça.
Oui, enfin, il faut quand même regarder que le FN, c'est 89 députés. Le LFI, c'est 75 députés. Et la NUPES, je crois que c'est 145, c'est ça, je
dis pas 131.
131, voilà. Donc 246 ensemble, on peut rappeler, 64 les Républicains, il y a 9 droites hors Républicains, 13 gauches hors NUPES et 142 effectivement NUPES avec le PC, le PS, les Verts. Et alors justement, puisqu'on parle de ça, M. Mélenchon qui n'est rien puisqu'il n'était pas... pas présenté, donc il n'a pas été élu. Alors, très paradoxal, parce qu'il y a un président de parti qui est élu, mais qui ne veut plus présider son parti, c'est Madame Le Pen. Et M. Mélenchon, lui, il n'est pas élu, mais il continue à présider son parti. Enfin, je ne sais pas si on appelle ça un parti ou un rassemblement. Je n'ai toujours pas très bien compris.
Donc, une alliance électorale.
Voilà, oui, d'alliance électorale. Alors, justement, ce n'est qu'une alliance électorale pour l'instant. M. Mélenchon, qui poursuit son idée, nous savons combien il est fin à la manœuvre, se dit maintenant on va faire un groupe NUPES et bien évidemment on commence à voir cette alliance craquer, chacun reprenant sa liberté. On ne veut pas faire un groupe, mais chacun va constituer un groupe avec les députés qui sont de sa sensibilité. Est-ce que vous avez là-dessus un commentaire?
Je vais bien sûr ne pas suivre l'analyse de Chloé, parce que mais je comprends que subjectivement elle ait envie que ça soit ça. En réalité, quand on détaille, on a un groupe à 90 avec, qui va être sans doute même un peu plus fort demain avec le RN. On a un groupe aux alentours de 70 avec LFI. Et on a un groupe des Républicains qui n'est pas très loin, qui est près de 60. Donc en réalité, tout ça n'est pas significatif. On a une explosion de gens dont on mesure mal les aspects factuels, les aspects structurels. En tout cas, ça ne me paraît pas avoir créer quelque chose qui soit de l'ordre d'une dynamique très forte. Et d'ailleurs, on va s'apercevoir que finalement, quand le PS va se reconstituer, c'est-à-dire dans les 8 jours qui viennent, avec des divers gauches, etc., eh bien, eux-mêmes seront sans doute aux alentours de 50-60. Donc tout ça, c'est un mouchoir de poche. C'est un éclatement, en vérité, qui correspond à l'absence de structure forte de pensée et de mobilisation. Moi, je vais vous donner un exemple d'un truc qu'on n'a pas regardé, qui pourtant se déroule au Sénat actuellement.
Ah, il y a le Sénat ?
Il se trouve que il y a quelques jours, c'était, vous vous souvenez, une finale de foot au Stade de France.
Oui, très réussi.
Parce que des gens...
Particulièrement bien encadrés.
Parce que des gens nous ont interrogés avec un certain nombre d'amis. Il se trouve qu'on a travaillé le lendemain matin de cet incident sur ce qui s'est passé au Stade de France, qui a été largement, au début, dans un enfumage médiatique, ministériel, etc., totalement sous-estimé. Je pourrais vous décrire, mais je ne le ferai pas, ce que nous avons confidentiellement décrit ce jour-là, déjà, de ce qui allait se passer, et l'impact que ça a eu sur les municipales. Et ça continue. Parce qu'en vérité, ce qui se passe au Sénat va déboucher sur une problématique sur l'autorité, sur la fierté, sur la souveraineté, sur la capacité de la France sur la scène internationale, dont vous voyez le moindre petit élément, quand je vous parle du désir destructif, le moindre petit élément, avec un truc qu'on ne maîtrise absolument pas, qui est l'effervescence des réseaux sociaux et leur puissance, qui est compensée par une absence totale de véritable construction politique. Alors je suis mignard, il y a une volonté de repolitisation. Le problème, c'est qu'elle est complètement explosée. Elle est explosée parce que nous ne voulons pas regarder ce que nous ratons depuis le début, et qui est que les gens ont fondamentalement changé dans leur fonctionnement parce que la structure horizontale de la société conduit à des logiques communautaires de pensée. Mais ce n'est pas communautaire au sens simplement « j'adhère à une communauté ». C'est que la même personne est dans plusieurs communautés. C'est son droit. C'est-à-dire que ça ne fait jamais structure. Et là, mais on en parlera tout à l'heure. La Colombie, quand on voit comment les woke se sont implantés en Colombie, comment la vice-présidente fait un texte qui est digne des universités américaines aujourd'hui, eh bien, il y a de quoi paniquer. Le problème de la politique aujourd'hui, c'est de reprendre ça en main, c'est-à-dire qu'on refasse structure.
Oui. Alors là, juste quelques commentaires sur. Bon, d'abord sur la NUPES et les aléas de la vie de la NUPES et du fait que Mélenchon présente le projet d'un groupe qui est un groupe unitaire à l'Assemblée nationale. Je veux dire, je pense que c'est un peu l'écume des choses, cette affaire-là. Il n'y a qu'à voir l'attention scrupuleuse, intentine et perverse de bon nombre de journalistes, des fois point d'interrogation, sur l'évolution de cette chose-là. On ne les a jamais trouvés aussi attentifs à l'égard d'autres nuances et évolutions de groupe que ce truc-là. Autrement dit, c'est chronique d'une explosion annoncée. Tout le monde attend avec un air gourmand. Je dois avouer que je lis l'actualité plus que je ne la regarde. Je me suis fait cette discipline-là. c'est nettement meilleur pour mon métabolisme et pour mon système cardiaque. Je préfère le lire. Mais je me suis fendu de quelques émissions dans lesquelles j'étais assez surpris de cette espèce de... Comment dire, de topos des journalistiques sur la NUPES, tout ça quand même. Combien de temps cela va-t-il tenir la route? Voilà, c'est. J'en sais rien et je pense que la question, elle n'est peut-être pas très très importante parce que je pense que la question de fond derrière, c'est. Alors, si je reviens à ce que dit Jacques, une présidente qui ne reprendra pas la présidence de son parti, alors qu'à la limite, on pourrait imaginer qu'elle est politiquement confortée avec le score que fait son parti aux législatives. Un Mélenchon, je parle de Marine Le Pen, un Mélenchon qui a abandonné à son fidèle lieutenant Bompard son poste de député dans les Bouches-du-Rhône.
Il avait cru que c'était Bompard, c'est pour ça qu'il l'a envoyé à l'Ouest.
À défaut d'être vieux port. Dont d'ailleurs les mêmes journalistes se posent des questions, hein, j'imagine pour certains, doivent savoir faire quelques hypothèses qu'ils tiennent source sûre sur ce qu'il va devenir. C'est indicateur, alors je vais le dire trivialement, d'un magnifique bordel, et en même temps, il me semble que c'est indicateur du fait que. Alors, les structures, les règles du jeu, la manière dont les choses se faisaient jusqu'à présent sont en train, effectivement, de se barrer un peu en... s'effilocher.
Ah, j'ai eu peur que vous employiez...
S'effilocher, c'est-à-dire, effectivement, peut-être qu'un certain nombre de politiques ont compris que ça se joue ailleurs que dans les places habituelles et dans les règles du jeu habituelles. Pas forcément
C'est effectivement très juste, ce que dit Mignard, c'est intéressant. Parce qu'on s'aperçoit quand même, pour continuer sur l'histoire de Claude, en réalité, on ne savait pas qui on avait en face. Parce qu'on a assisté dans toutes ces élections, on parle de la NUPES, de la NUP, je ne sais pas comment vous voulez dire, mais LFI, c'est déjà un conglomérat. LFI se constitue parce qu'il sort vainqueur de la présidentielle à gauche.
Oui, bien sûr.
Mais je vous rappelle qu'avant, il y a l'opération primaire, il y a l'opération de Taubira, et il y a l'opération d'écolo qui quitte les écolos pour être plus efficace. Donc on est en réalité dans un paysage qui est un trompe-l'œil total.
Gazeux, comme disait M. Mélenchon.
De l'autre côté, je vous rappelle le phénomène RN, c'est aussi un phénomène Zemmour. Parce qu'en réalité, Zemmour n'a pas été neutre sur la consolidation de l'image sérieuse du Rassemblement national.
Bien sûr,
tout à fait. Il en a rajouté de ce point de vue.
Vous voyez qu'en fait, il y a eu un phénomène de brouillage d'image. Et si on continue pour aller dans le sens de Mignard, on a quand même un président de la République qui ne fait pas campagne, ni pour sa propre campagne, ni ensuite pour les législatives, et qui en revanche nous annonce effectivement une superstructure qui est le CNR.
Donc, ne sait pas d'ailleurs ce qu'il y a dedans, parce que personne n'est en capacité de dire ce que ça va être que ce truc-là.
On peut avoir une idée quand même dans le tracé qu'il en donne, mais je ne veux pas monopoliser.
Mais il nous a fait le coup depuis un certain temps, cette affaire-là, en permanence de nous envoyer des rideaux de fumée sur des modalités de prise de décision, par exemple.
Avec la Convention citoyenne pour le climat.
Alors je pensais à cette pantalonnade, et éventuellement à la sortie des Gilets jaunes, rappelez-vous. Ce genre de truc. Autrement dit, ça se joue ailleurs, sous d'autres formes qui ne sont pas identifiées, qui sont en train éventuellement de se stabiliser. Voilà. Alors, après, on a je partage en partie ce que dit Pierre sur... par rapport à la question qui est la question du communautaire, pour autant qu'on se mette d'accord sur ce qu'on appelle le communautaire. Ce qu'on a de sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'articulation du vertical et de l'horizontal, c'est un sacré problème. Hein, c'est-à-dire que comment arriver en ayant des identités multiples, c'est-à-dire qu'en gros, sortant d'un truc dans lequel, en gros, mon appartenance déterminait la structure dans laquelle j'exerçais mes intérêts et mes droits dans une identité que je partageais avec d'autres, tout ça est effectivement, je pense, derrière nous. Comment cette ébullition-là, que je regarde d'un œil plutôt sympathique, je ne suis pas nostalgique, moi, de l'identité homogène qui produit de la structure, parce que ça produit de la segmentation et ça produit aussi souvent de la hiérarchie. Voilà. Mais comment... peut-on arriver, et je ne suis pas sûr, moi, qu'on puisse le faire, mais comment peut-on imaginer Et alors, par exemple, de ce point de vue-là, la NUPES, je trouve, alors, ou la NUP, peu importe, déjà, vous voyez, le titre, on n'arrive pas à foutre un S, ou voilà, ça doit être de l'écriture inclusive. Est un bon laboratoire de ce point de vue, d'articulation, de cohabitation, d'approches qui sont des approches, alors, qu'on pourrait dire, invivables, incohabitables, entre ce que dit le secrétaire général du Parti communiste d'un côté et ce que disent un certain nombre de responsables écologistes de l'autre, il y a des lignes de fracture qui sont des lignes de fracture relativement fortes. Mais j'ai envie de dire, ça ne me dérange pas parce que je pense que les vraies questions sont là. Les vraies questions sont là. On n'a pas de solution là-dessus. Il va falloir qu'on trouve des systèmes pour construire ce genre de choses. Et ce qui aujourd'hui est vécu, dénoncé comme étant une faiblesse, et de mon point de vue, la réalité, c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Et certainement pas d'ailleurs, uniquement dans le registre électoral du système démocratique institué, mais à tous les étages. On le voit bien, hein, on le voit, ça se joue dans l'entreprise, ça se joue à l'éducation nationale. Tout ça, c'est un travail qui se structure un peu partout.
Alors, avant d'en venir à ce qui pourrait se passer après, comment tout cela va fonctionner, quand même quelque chose qui est frappant, c'est ce qu'on a appelé de ce mot horrible dégagisme. Enfin, on a quand même vu trois ministres balayés, quelques-uns élus, mais à quelques points près.
Et c'était puis désespérant, d'ailleurs.
Tout à fait. Et le président de l'Assemblée est retourné en Bretagne, et tous ont été battus par des gens qui n'étaient pas des pointures, et qui étaient pour la plupart, notamment le président Ferrand, s'est fait battre par une jeune femme qui est une nouvelle en politique. Qu'est-ce que ça montre, selon vous, Pierre?
C'est notamment ça que j'appelle le désir destructif. C'est en fait, on est mu par une réaction parce que les choses qui dominent aujourd'hui sociologiquement, j'espère que Mignard ne me contredira pas, c'est quand même l'aspect double justement des réseaux sociaux, qui est l'aspect émotionnel qui domine la société, mais qui est couplé avec la puissance de la viralité. Ce qui fait que des petites choses qui devraient rester des guirlandes sur le sapin deviennent maintenant le tronc de l'intervention. C'est pour ça que j'émets l'hypothèse qu'il y a un moment où on va se retrouver devant une réaction nécessaire. Parce que ce qui est quand même le plus fortement masqué dans les débats depuis 3 mois, c'est la situation de ce pays. Enfin, je suppose que vous, comme moi, vous parlez avec des gens à l'international qui sont dans les grandes boîtes, etc., et qui analysent la situation française, qu'on sait à peu près où on en est sur, une fois qu'on arrête le quoi qu'il en coûte, ou ce qui suit, tous les airbags qu'on est en train de mettre en place et qu'on ne peut plus se payer. Et les problèmes que nous avons devant nous, à la fois sur le plan industriel et à la fois sur le plan de l'énergie, on est dans une situation totalement explosive. C'est-à-dire que si jamais un homme politique, un peu cynique, voulait tirer les conséquences de cette élection ratée et disent « Ah ben alors d'accord, vous voulez la vérité ? Eh bien on va la mettre sur la table. » Et si demain, on assistait à la pompe, dans le chauffage, au début d'hiver, à une augmentation de 30%, c'est très peu par rapport à ce qui devrait se passer. Je vous demande simplement quelle est la réaction dans ce pays d'une situation où on n'est même plus au stade du pouvoir d'achat, dont on sait que l'inflation va être plus forte et durable. Comment on tient socialement face à une situation comme ça, en sachant que toutes les recettes miracles qui sont balancées partout, il n'y a pas une personne qui y croit. Et vous avez vu que pour ce qui concerne l'Europe, on s'est fait envoyer dans les cordes il y a 10 jours, sur le nucléaire notamment. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se le payer. Les Allemands ont déjà des niettes. Donc vous voyez, on est dans un contexte qui est explosif socialement, et je fais le pari qu'il y aura des gens qui auront tendance à laisser ce bordel s'installer, le conflit social progresser, et qui là-dessus vont faire des grands choix stratégiques. On en a connu en l'histoire, et c'est pour ça que le CNR, à mon avis, n'est que le précurseur sémantique d'une tentation.
Chloé.
Alors, on était partis des choix de ministres et des réseaux sociaux. Là, on a, en 3 minutes, on est allé assez loin. Mais,
c'est notre péché mignon.
J'essaye de suivre. Mais alors, je pense que je suis plutôt d'accord avec ce que voulait dire Pierre en disant que le côté émotionnel des réseaux sociaux qui prédomine notre monde actuel efface la situation critique dans laquelle la France est en train de se placer. Donc là-dessus, je ne vais pas le contredire. Et alors Jacques, vous aviez commencé en parlant des personnes battues, comme vous avez dit, et vous parliez de Ferrand, c'est ça, qui a
été écarté, le président de l'Assemblée,
par une jeune femme nouvelle en politique. Alors, sans vouloir prendre la défense du président, évidemment, je suis pas sûre que ce soit quelque chose de négatif, de juste simplement de renouveler, même avec des gens qui débutent. Et d'ailleurs, dans cette radio, vous êtes vous-même amateur de la jeunesse, pour contraster avec...
Amateur de la jeunesse, attention, qu'il n'y ait pas de confusion sur ce terme.
C'est quelquefois puni par la loi.
Attention.
Donc, je pense pas que ce soit un mal après.
Ah, bon, quand, évidemment... quand on a un poids lourd comme Ferrand, qui se fait balayer par une jeune nouvelle en politique, on est ravis qu'elle ait été élue et qu'elle soit jeune et qu'elle ait l'avenir devant elle, mais ça veut quand même dire quelque chose.
Vous pensez que c'est une sorte de... Comment, alors, on appelle ça du pinkwashing.
Oula, quel terme.
Dans le jargon.
Ah, mais tu vois,
de tradition.
Nous sommes renvoyés à notre état civil.
À nos âges.
Un féminisme, disons, un peu vendeur de Macron, c'est ça que
je
vous lui reprochez?
Je ne lui reproche surtout rien. Je la félicite et je ne lui reproche rien.
L'anti-macronisme et tous les gens qui portent un tout petit peu l'image de Macron plus fortement que les autres, puisque c'est ça, sa garde rapprochée, que ça soit Blanquer, même s'il l'était un peu moins, Ferrand, Castaner, etc., ont été tous les trois balayés sèchement. Et la jeune prodige qui s'annonçait avec ses lunettes de grenouille n'a pas fait beaucoup mieux.
Oui, quand Macron a été élu, il a fait élire n'importe qui. Nous l'avons vu d'ailleurs dans notre région, on n'aura pas la cruauté de donner des noms. N'importe qui a été élu.
Et
aujourd'hui, tout le monde est battu pour les raisons strictement inverses. Donc je pense que M. Macron devait peut-être un peu réfléchir à cette question. Alors pour changer de sujet, ou plutôt pour continuer sur cette même veine, il va falloir maintenant diriger le pays avec cette assemblée extrêmement morcelée. Macron n'a pas la majorité, donc il va devoir composer et discuter. Est-ce qu'on va tomber dans un régime de blocage, ou est-ce qu'on va faire comme savent très bien le faire les Allemands, et ça marche très bien chez eux? Eh bien, on fait des alliances ponctuelles de circonstances, on fait du consensus en fonction des textes qu'on veut faire voter. Comment vous le sentez, Jean-François?
Je le sens difficile.
C'est pas notre culture, hein, c'est clair.
Oui, je le sens. Alors, d'une part, c'est pas la culture du consensus en allemande. Et je pense que le. Mais bon, c'est vraiment là. Je pense que le contexte, ça marche. Ces choses-là marchent quand, comme disait un célèbre secrétaire général de Force ouvrière, il y a du grain à moudre. Il y a pas grand chose de grain à moudre, et je partage ce que dit Pierre, hein, en ce moment il y a plus de fiel à moudre que du grain, et que c'est rarement quand même dans ce genre de situation, je pense, qu'on arrive à fabriquer des consensus qui sont des consensus intelligents. Je persiste à penser qu'on est dans un moment qui est un moment entre guillemets de vérité, c'est-à-dire je ne crois pas à la crise salutaire, mais je pense que la crise est inéluctable de ce point de vue. Il faudrait avoir un président de la République qui soit suffisamment ouvert et moins manœuvrier et plus politique qu'on ne l'est. Et il faudrait qu'il ait comme partenaire des gens qui sont habitués à ce genre de choses. Bon, le renouvellement amène à l'Assemblée nationale des gens qui sont des gens dont je ne suis pas sûr qu'ils soient prêts à négocier. Je pense notamment à tous les gens dont je me sens proche, qui sont des gens représentant un petit peu des organisations de la société civile. On en a là, qui viennent d'arriver, qui tranchent, qui sont un peu atypiques. Hein, je ne suis pas sûr, moi j'en connais quelques-uns, qui soient prêts à négocier. Je ne suis pas sûr qu'il soit prêt à se plier à des disciplines de parti trop. Et je ne suis pas sûr qu'il soit prêt à négocier des accords qui soient des accords politiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas quelque chose de l'ordre du débat, éventuellement une stratégie à partager, mais certainement pas à l'ancienne. Et il faudrait qu'il y ait pour le coup un président de la République intelligent et novateur, et on ne l'a pas.
C'est clair.
Voilà, non, mais on ne l'a pas. Parce que sous les dehors, effectivement, de la nouveauté, hein, du renouvellement de la politique traditionnelle, il nous a quand même enquillé et des outils et des postures depuis quelques années qui démentent cette idée-là, quoi.
Sur cette question, Pierre.
Oui, de manière générale, ça va vous amuser, je vais faire du factuel et de la fiction.
Ah, mais c'est une marque de fabrique.
Ça. Oui, c'est une marque de fabrique. Il y a quelques jours, donc, nous avions deux vérités bien établies. Première vérité, on l'a déjà citée, on donne toujours une majorité au président élu. Bon.
Paf.
Il y a une deuxième vérité qui était énoncée partout, c'est très rare, enfin, on n'aura pas d'élection pendant 5 ans. Élection réelle. Eh bien, on va se retrouver dans un calendrier qui est exactement à l'envers de ça. Donc je vais dire le calendrier que moi j'ai en tête. Je pense qu'il y aura une dissolution dans 18 mois.
Ouvrez vos agendas.
Que cette dissolution va déboucher sur des sujets nationaux et internationaux de souveraineté qui vont aller directement percuter les élections européennes.
C'est-à-dire, par exemple ?
C'est-à-dire qu'on va avoir sur la souveraineté industrielle et sur l'énergie des grands débats, notamment sur le nucléaire, je l'ai déjà dit ici, donc je suis sûr. Aujourd'hui, il est clair qu'on va nationaliser EDF. À combien de pourcents ? Avec quel fric ? Il manque 40 milliards sur EDF. Il faut en débloquer, on dit 60, il en faudra 150 pour faire les EPR. Où va-t-on chercher l'argent, en sachant que l'Europe a fermé la porte, pour fabriquer tout ça ? Mais il peut y avoir, dans la crainte du conflit social sur le pouvoir d'achat, sur l'énergie notamment, une tentation des Français de voter oui en référendum, par exemple, ou simplement, même à l'Assemblée, peut-être, de suivre le président Macron sur un grand projet national, un projet gaullien sur la souveraineté. Si tel est le cas, alors derrière, il faut dissoudre cette Assemblée qui est trop dispersée en disant, il avait dit à une époque, il y a les progressistes et les non-progressistes. Il dira demain, il y a l'unité nationale, il y a ceux qui sont contre. Et s'il fait ça, ça sera oui ou non, mais le lendemain sur les européennes, les conséquences politiques vont être énormes sur cette élection qu'on pensait une élection banale et qui va devenir une élection stratégique, où on va voir revenir Zemmour, par exemple. Donc nous sommes sur un calendrier qui est, si on était le président de la République, qui ne se représentera pas une troisième fois, on est sur un calendrier de 3 ans qui sera non seulement pas un calendrier vide et sans élection, mais ce sera un calendrier bourré d'élections et de rendez-vous politiques.
Jean-François, sur ce, ben, je sur sais pas, cette je, peinture je, de l'avenir.
Je n'ai pas les capacités de prémonition de Pierre. Je ne connais pas suffisamment tous les rouages de ces choses-là. Mais ça devrait désespérer Jacques, qui démarrait en disant « en fait, c'est fini
». Bah, si ça repart, mais avec beaucoup plus de qualité, beaucoup plus d'échanges et de la profondeur dans le débat, on peut tous l'appeler de nos voeux, mais on sait que ça...
Je crains que... Mais bon, voilà. C'est...
Un commentaire, Chloé ?
Non, mais pour rebondir sur ce que dit Jean-François, au moins, nous n'aurons plus cet homme pas intelligent et pas ouvert, comme le disait Jacques juste avant. Voilà.
Alors, si on regarde un peu, et alors là, je vais revenir vers un article du Monde intitulé « Un président puni, entre guillemets, à la tête d'un pays... » Encore ouvrez les guillemets en territoire inconnu, fermez-les. Les résultats des élections législatives vues par la presse étrangère sont pas tendres. Hein, nos camarades européens, on y lit échecs sévères, défaites cuisantes, contre-performances. Le journal Frankfurter Allgemeine Zeitung, vous le connaissez, décrit un vote sanction contre le style d'Emmanuel Macron. Et je le cite, qui a souvent bafoué le Parlement lors de son précédent quinquennat. Il prenait des décisions seul aux côtés d'un petit cercle de fidèles. Il n'a pas tenu sa promesse électorale de renforcer l'Assemblée nationale, c'est un euphémisme. Ce style de leadership a été puni. Les résultats de ce scrutin appellent à un renouveau très attendu de la tradition parlementaire française. Die Welt, de son côté, toujours bien sûr un journal allemand, traduction Le Monde. Les électeurs français sont connus pour se choisir des rois afin de mieux les renverser. Dimanche, ils ont accompli l'exploit de tirer le trône sous les fesses d'un nouveau roi. Macron est déjà mûr pour les oubliettes de l'histoire après 5 ans d'exercice du pouvoir. Et il intitule son article « La fin précoce d'une histoire ». Les Allemands ne sont pas tendres. Et si on va de l'autre côté de la Manche, le BBC qui parle de la descente d'Emmanuel Macron après le point culminant de sa victoire à l'élection présidentielle dont il n'a pas su garder l'élan. Le meilleur est passé pour Emmanuel Macron, dit la chaîne britannique. Les seconds mandats, précise-t-elle, n'ont jamais été heureux sous la Ve République. Ça continue, vous avez les mêmes choses sur El País par exemple, la France est rentrée en territoire inconnu, un vote sanction et les Espagnols nous disent 5 ans de gouvernance en contre-pouvoir, le pays a une alternative, soit apprendre la culture du consensus exotique dans son système présidentiel, soit être condamné à l'ingouvernabilité. Nous avons déjà commenté ce genre de choses. Le Washington Post, même le New York Times, parle d'échecs, d'avertissements sévères. Et le Post pointe l'un des pires résultats pour un président français. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ces commentaires sans concession, on sent pas qu'il y a quand même un grand amour de M. Macron chez nous, mais je vois qu'à l'extérieur, ça n'a pas l'air d'être mieux.
Ni de la France d'ailleurs. Moi, je suis toujours assez prudent sur les articles étrangers qui, quand on les lit, sont les victimes d'un double miroir déformant. Le miroir déformant qu'ont souvent les journalistes étrangers en parlant de la France, dans des termes qui ne sont jamais très loin des stéréotypes, à peu près autant que quand nous on parle de l'étranger, ça c'est le premier miroir, et c'est le double miroir des formats. Le second, c'est la manière dont nous-mêmes nous comprenons ce que les autres disent avec leur propre culture. Autrement dit, je ne peux pas en faire grand-chose de ce que dit. Alors c'est toujours sympa, c'est exotique. Moi, c'est toujours. Et j'ai tendance, comme toujours dans ces cas-là où c'est quand même un peu impressionniste, à aller chercher ce qui m'intéresse là-dedans. Oui, je pense que Macron a pas donné une image qui était une image éminemment sympathique. Mais c'est pas très très loin de l'image qu'on peut avoir chez pas mal d'étrangers aussi, ce type de discours-là. Voilà.
Il parle de Macron, il parle pas. Alors la plupart de ces articles sont faits par des correspondants de presse qui habitent en France et notamment évidemment à Paris, donc ils connaissent intimement bien le système. Et c'est même toujours très intéressant de regarder ce que pensent les autres de nous, plutôt que de faire du nombrilisme. On est les plus forts, les meilleurs, etc.
Encore une fois, pour autant qu'on se donne un petit bout de peine de pas le prendre comme ça et de faire jouer cette espèce de truc, quoi. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont des gens avec des repères qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, qui parlent de nous, et nous qui les lisons. Voilà.
Chloé.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec Jacques sur le nombrilisme et le fait que ce n'est pas inutile de dézoomer, de prendre du recul par rapport à notre situation. Et d'ailleurs, ça me fait penser, ces extraits d'articles étrangers, à une chronique que Marina Rollmann sur France Inter avait faite. Marina Rollmann, qui est d'origine suisse, c'était avant les élections présidentielles, par rapport justement à ce système de présidence en France, par exemple le fait que le président habite à l'Élysée, qui apporte quand même un côté un peu royal. Bah justement, les Allemands parlaient de trône qu'on tire sous les fesses de Macron. Donc, je trouve ça, son analyse est très intéressante. Prendre du recul n'est pas inutile, à mon avis.
Pierre, un mot, et on en terminera, sera le mot de la fin.
Pour aller dans le
sujet.
Sens de ce que vous disiez, il se passe quand même plusieurs choses qui sont en fond de scène. D'abord, si vous faites la même chose que moi, mais depuis dimanche, on a l'impression d'une recomposition médiatique. Je trouve les chroniqueurs très, très durs, très acerbes, et on les sent déjà en protection pour un certain nombre. Ce qui ne peut pas ne pas rappeler une chose, c'est le déferlement du début de campagne présidentielle avec Zemmour, où on s'interrogeait beaucoup sur le rôle des médias dans ce qui était en train de monter en puissance. Est-ce que nous sommes en train d'assister à la deuxième vague de la pression de la grande industrie sur la presse et de l'anti-macronisme ? À voir et à suivre. Deuxième chose sur le fond de scène. Toutes les études montrent que les Français adorent la cohabitation. que d'une certaine manière, le résultat, c'est ce que décrivait un peu Chloé, même de manière un peu différente, ils ont finalement imposé la proportionnelle par leur vote législative. Ils aiment ça, redistribuer. C'est pour ça que je suis très attentif au fait que si on monte un peu en gamme, ce qui fait référence dans l'état d'esprit des Français, c'est le Conseil national de la résistance. Ils en rêvent, en s'endormant et en se levant et en se rasant. Et c'est pour ça que le Conseil national de la refondation est peut-être l'annonce sémantique de tout ça.
N'oublions pas que le Conseil national de la résistance, c'est un produit d'une guerre quand même.
Oui, c'est le produit d'une guerre et qui a eu quand même des résultats extrêmement heureux et avec lesquels on vit aujourd'hui.
Mais à quel prix ?
Mais à quel prix, bien évidemment. Bien, je vous propose de passer au sujet suivant, mais un petit jingle avant d'y arriver.
Vous êtes bien sur Esprit Occitanie, la web radio, et vous écoutez Ça va mieux.
Voilà, deuxième sujet, nous allons parler, on va se transporter de l'autre côté des mers, nous allons parler des élections présidentielles à Colombie, mais comment pourrait-on parler de la Colombie sans avoir l'avis éclairé de Léonore Socaras, notre complice. Léonore, vous êtes avec nous ?
Tout à fait.
On dit quand on fait tourner les tables, elle est avec nous. Merci de nous avoir.
Je l'entends, je la vois. Non, je l'entends.
On s'entend. Je vous entends très bien.
Alors, en deux mots, mais après vous le commenterez. Donc, la Colombie a élu dimanche un président de gauche, Gustavo Petro, 62 ans, qu'il a remporté au second tour. Avec 50,44% des voix, il a balayé le riche homme d'affaires Rodolfo Hernandez, qui n'a eu que 47,31% des voix, et le tout avec une participation historique bien meilleure que chez nous de 58%. Et il y a à ses côtés une vice-présidente, Francia Marquez, une afro-descendante féministe et écologique, dont je suppose que Pierre nous parlera tout à l'heure, puisqu'on a déjà commencé autour du repas qui précédait notre émission à évoquer cette question. Voilà. Alors, Gustavo Petro, le nouveau président, est un économiste de formation qui, dans sa jeunesse, a appartenu à la petite guérilla urbaine du M19, qui a déposé les armes depuis fort longtemps, c'était en 90. Il a été ensuite député, sénateur, maire de Bogota, de nouveau sénateur. Et bien évidemment, ce passé de guérillero a été rappelé par l'opposition. Le 7 août, il rentrera en fonction et il a déjà prévu que son gouvernement sera celui de la vie, de la paix, de la justice sociale et de la justice environnementale. Je le citais. Alors Léonore, vous qui avez un pied dans nos deux pays, quelle est votre vision de cet événement ?
Tout à fait. Bon, concernant l'élection de présidentielle en Colombie, c'est vrai que c'est quelque chose d'historique. C'est la première fois qu'on a un président de gauche. Et pour être plus précis, c'est la troisième puissance latino-américaine, la Colombie. Et c'est vrai que ça marque un changement dans l'histoire du pays, parce qu'il fait partie d'un groupe qui s'appelle le Pacte historique, c'est un parti politique des FARC. Et également avec Francia Marquez, en tant que vice-présidente, elle ouvre la voie pour les communautés afro-descendantes colombiennes. Donc malheureusement, pendant des années, et ces communautés n'ont pas eu la voix, et petit à petit, c'est une communauté qui prend beaucoup d'importance dans le pays, par l'histoire, également par la culture. Mais en tant que femme, ça change complètement aussi l'histoire aussi pour du pays. Alors, parlons de la victoire face à Rodolfo Hernández. Ce qui est intéressant de tout ça, comme vous l'avez évoqué il y a un moment, les différences entre 50% et 47%. C'est vrai que Rodolfo Hernández, il a eu l'aide de la droite. Au début, il était maire de Bucaramanga, donc il était aussi accusé de corruption. Mais énormément de personnes le voyaient comme un bon candidat parce qu'il est entrepreneur, parce que c'est un riche. Et c'est lui-même qui n'a pas eu besoin de demander de l'aide pour faire sa campagne politique. Donc les gens se disaient qu'il allait traiter le pays comme une entreprise. Une espèce de Trump, on va dire un personnage comme Trump aux États-Unis. Donc tout ça, ça nous fait penser à que les gens, ils se sont penchés vers Petro pour une idée tout simplement de dire on est fatigué de la situation qu'on a vécue jusqu'à présent. C'est toujours les mêmes qui gouvernent, le même parti politique, même si c'est des conservadores et libérales, ça change. Cette fois-ci, on a les FARC avec un parti politique qui vient au pouvoir. Quel est le résultat de tout ça dans pour la troisième puissance latino-américaine? Alors, il propose plusieurs points, mais j'aimerais bien aborder trois. Le premier, c'est qu'il propose un accord national, c'est-à-dire une réforme à la retraite, l'éducation, la santé, l'alimentation, et surtout en ce moment qu'on parle sur l'alimentation et les problèmes alimentaires mondiaux. Donc, il parle d'un accord aussi par rapport à une réforme agraire, parce que le pays, depuis des années, a vécu des problèmes à cause de la redistribution des terres. Et quelque chose d'étonnant, c'est qu'une fois il était élu en tant que président, il a ordonné, il a demandé au procureur de la nation de libérer tous les jeunes prisonniers. Je crois que je l'avais évoqué dans une de ses missions, la situation en Colombie par rapport aux manifestations sociales qui se sont passées en 2021, pendant la pandémie. Et donc, il a ordonné de libérer tous ces gens qui étaient prisonniers. Un autre point important aussi qu'il souhaite développer, c'est une économie circulaire vers une transition, enlever tout ce qui est l'extractivisme, parce que la Colombie a souffert énormément à cause de l'extractivisme. Et donc, il envisage une transition également vers, comme je viens de l'évoquer, une économie circulaire, mais également une transition vers un capitalisme, c'est ça qui est intéressant comme il le propose en tant qu'économiste, un capitalisme productif et démocratique. Donc, on parle aussi de savoir gérer le pays à travers des entreprises, donner de nouvelles opportunités, surtout les jeunes, parce qu'il faut tenir compte qu'une grande population a voté pour lui dans le deuxième tour, c'était les jeunes, les mères et mères de famille, des femmes, on va dire comme ça, et surtout les groupes qui ne sont pas très entendus dans le pays. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et justement, à travers ces points, il essaye de répondre à ses besoins, aux paysans aussi. Et donc, au niveau des plans régionaux, c'est aussi qui est important. C'est là important par rapport à la relation des États-Unis vers la Colombie. On sait très bien que c'est un des pays qui est le plus proche des États-Unis, c'est la Colombie. Donc, il invite à un dialogue interrégional latino-américain pour revoir ensemble un nouveau dialogue, pour voir une nouvelle politique au niveau régional. Et quelle est la place des États-Unis? C'est ça qu'on doit se poser comme question. Quels sont les États-Unis comme puissance? Quel sera son rôle? Parce que lui, en étant président gauche, pendant des années, ils ont eu des problèmes avec les FARC. Donc les FARC, maintenant, ils essayent en quelque sorte de changer leur image, de ne plus une image de guérilla et des images de violence, sinon une image d'un acteur qui construit le pays. Et aussi, ce qui est important de tout ça, dans l'émission dernière, quand on avait partagé sur le sujet de la Colombie et l'Amérique latine, j'avais raconté un peu l'histoire de que son image en tant que guerrière, et 20 ans, plus de 20 ans, se sont écoulés, et lui continue à avoir l'image en tant qu'ex-guerrière. Enfin, les gens ne le regardent pas en tant qu'économiste, mais sinon en tant qu'il était guerrière. Donc les gens, ils sont dans ça dans sa tête, ils ont une peur chez les gens, en se disant, on va devenir comme le Venezuela. Et en parlant de Venezuela, le pays qu'ils ont félicité à la Colombie, ça a été en première le Venezuela, la Bolivie, l'Argentine. Et c'est intéressant que Maduro a envoyé son message en disant, en lui donnant tout son accord, toutes ses félicitations. Et donc ça a été contesté, parce que Cabello, c'est une des personnes qui travaillent pour Maduro, a également félicité. Ils se sont dit de suite dans les news en disant, et c'est une des stratégies de communication qui a été employée, c'est on va devenir comme le Venezuela. On se prépare à partir comme les Vénézuéliens. Ils ont dû quitter le pays. Donc on est dans une phase de tension. Ça va pas être facile. Ça ne sera pas facile pour Petro de gouverner, parce qu'actuellement, dans le pouvoir, il y a toujours les gens qui travaillent pour le président actuel, qui sont dans le gouvernement du président actuel, de Iván Duque. Et donc, on verra une confrontation des pouvoirs au niveau législatif, au niveau des congrès, de l'Assemblée nationale, et on verra comment il va essayer de gouverner dans un pays qui se trouve aujourd'hui dans une situation difficile.
On va observer tout ça attentivement. Léonore, pardon de vous couper, mais le temps passe très vite. On parlait du Venezuela, nous avons notre Vénézuélien chez nous aussi, mais je ne citerai pas son nom. Pierre, peut-être tout à l'heure vous nous parliez de la vice-présidente qui paraît être une femme de caractère.
Non, mais je laisse Léonore qui connaît bien ce sujet. Deux remarques, c'est uniquement par polémique, parce que c'est simplement pour s'amuser.
D'abord, je suis très content parce que j'ai vu qu'Ingrid Bettencourt était du côté du vaincu. Et ça, c'est quand même une satisfaction qu'elle soit définitivement éliminée de la scène politique. Et quant à la vice-présidente, c'est vrai que je l'aurais beaucoup plus apprécié si elle n'avait pas tweeté un tweet aussi woke qu'elle l'a fait hier et que les plus extrêmes des universités américaines ne contesteraient pas.
Pierre a du mal à s'y faire.
Léonore, sauf que vous ayez un commentaire particulier. Oui, on a Chloé. Chloé s'agite sur sa chaise. Oui, Chloé, une question peut-être à Léonore ?
Non, c'était plus pour rebondir sur ce que disait Pierre, mais bonjour Léonore. Qu'est-ce qu'on entend par woke, Pierre ?
Peut-être pas rentrer dans
Alors là, vous allez me faire exploser l'horaire. Hein.
Je propose qu'on fasse une émission sur cette thématique.
Non, parce que moi, ça m'intéresse.
Eh bien, on fera une émission sur cette thématique très prochainement.
Là, moi, j'avais juste une question, peut-être que Léonore a la réponse. J'avais compris que le président élu avait très peu de réserves de voix à la fin du premier tour et qu'il était quasiment battu par la plupart des pronostiqueurs. Est-ce vrai et qu'est-ce qui s'est passé ?
Réponse rapide.
Rapidement, ce qui s'est passé, c'est qu'au deuxième tour, les gens ils ont peur. Donc, ça disant, Petro, on va empêcher qu'il devienne dans le pouvoir. Mais il a fait une campagne, on va dire que c'est bien débrouillé par rapport à sa campagne, mais les gens, ils avaient peur. Donc, pour la deuxième élection, il a essayé de convaincre les autres partis politiques. Il essayait de convaincre surtout, je l'avais dit, les jeunes et les femmes.
Donc il y a eu une espèce de sursaut, quoi, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
D'accord. Merci Léonore de cet éclairage. Nous serons certainement amenés à y revenir. Merci d'avoir été avec nous. On vous rend avec à vos plaisir. Étudiants et à l'université. À très bientôt.
À très bientôt. Au revoir.
Voilà, l'heure a largement sonné de passer à nos dernières rubriques, les brèves. Bien, je commence. Regardons un peu ailleurs aussi. Il n'y a pas que la France, Dieu merci. Le Programme alimentaire mondial, le PAM, a averti dimanche qu'il devrait désormais rationner les réfugiés en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest, faute de financement adéquat, alors même que les besoins sont en hausse. Il faut savoir que les trois quarts des réfugiés soutenus par le PAM en Afrique de l'Est ont vu leur ration réduite de 50%, a-t-on déclaré. Alors quand on sait que un tiers de la nourriture produite dans le monde est tout simplement jetée à la poubelle, on peut s'étonner de ce genre de choses, pour ne pas dire se scandaliser, le mot serait faible. Nous saluons notre ami Pierre qui quitte le studio parce qu'il a un rendez-vous. À très bientôt Pierre. Et nous continuons, toujours dans les brèves, Jean-François.
Oui, pour rester dans l'international et revenir sur la guerre en Ukraine, et pour aller au-delà de la représentation qu'on donne des Russes en général ou de la Russie, juste une brève, et Dmitri Muratov, c'est le rédacteur en chef de Novaya Gazeta, vient de mettre en vente sa médaille de prix Nobel de la paix à 103 millions de dollars. Pour venir en appui aux enfants ukrainiens victimes de la politique poutinienne. Les Russes ne sont pas tous poutinistes.
Oui, nous avons des amis russes et nous pensons souvent à eux et l'inconfort intellectuel et peut-être même matériel qui doit être le leur aujourd'hui. Alors ça va mieux, bon, il était plus que temps, mais l'agriculture aujourd'hui s'interrogerait, si j'en crois les gazettes, sur son adaptation au réchauffement climatique. Sachant que l'irrigation absorbe 48% de l'eau consommée en France, les vagues de chaleur à répétition vont contraindre les céréaliers, éleveurs et maraîchers à revoir leur mode de production. Il semblerait qu'ils en aient pris conscience. La FNSA va-t-elle devenir un peu plus réaliste ? Enfin bon, peut-être.
On peut rêver,
c'est pas gagné à mon avis, on peut rêver quand même. Conseil culturel, Jean-François.
Ah ben petit, ça va mieux quand même.
Oh pardon.
C'est vrai.
Bah, je ne veux pas vous.
Alors c'est suffisamment rare pour voilà. Alors dans le flot de commentaires sur les législatives, un nouveau député s'appelle Sébastien Peiteir, on dirait chez nous en Occitanie. Qu'a-t-il de particulier ? C'est le premier député en fauteuil roulant qui vient d'être élu à l'Assemblée nationale. Vers une société plus inclusive, ça va. Tout doucement mieux, il y a encore beaucoup de boulot, mais c'est un petit signe.
Ce n'est pas un député en marche, donc, j'imagine.
C'est un député qui roule.
Bien. Non, c'est très mauvais, je suis absolument désolé. Conseil culturel, et nous en terminerons par là. Alors bon, ben, vous l'avez compris, l'été est là, il fait déjà même d'ailleurs très chaud depuis un bon moment, on a bien besoin de souffler. Donc des conseils plus légers que d'habitude, moi je vais vous recommander une batterie de livres pour la plage ou la montagne, ou ce que vous voulez. Un très bon livre, Bleu Calypso, de Charles Aubert chez Pocket, c'est vraiment très bien fait, c'est un monsieur qui écrit remarquablement bien. Dans la même veine, Antique Trahison de Gilles Vincent chez Kern. Vous avez également Pierre Pouchéré, La Consule Assassinée chez Filature. Et puis, si vous voulez quelque chose d'un peu plus sérieux, Bruno Patino, La Civilisation du Poisson Rouge, petit traité sur le marché de l'attention, au livre de poche, c'est tout à fait remarquable. Bruno Patino est le patron d'Arte, journaliste, et qui a eu une carrière assez intéressante. Et puis, tiens, il est parti, donc il ne rougira pas. Si on cite « Et il monta les marches jusqu'au lendemain » de Pierre Larouille aux éditions UPPR.
On le connaît, on le connaît.
Jean-François ?
Oui, vite fait, on est à l'heure où on enregistre, on est le 21 juin. Ce soir, c'est la fête de la musique. Au passage, une pensée pour Steve Maria Carisso, qui est mort il y a 3 ans pour la fête de la musique à Nantes. C'était lors d'une charge policière. On attend toujours que les responsables soient jugés. Voilà, c'était aussi une certaine manière de parler de la culture et un livre. Le livre de Marie-Laure Morin, qui est une ancienne magistrate, qui a longtemps milité à l'intérieur, dans le cadre de la CIMADE, qui est une déléguée du défenseur des droits ici à Midi-Pyrénées, qui vient de sortir un livre, « Faire de l'étranger un hôte, l'hospitalité, un droit fondamental » chez Sileps. Un livre intéressant, documenté, de quelqu'un qui connaît et qui propose effectivement une évolution juridique de la manière dont on accueille les gens, tant la façon dont on accueille les autres dit beaucoup de notre propre manière de vivre.
Chloé ?
Et moi, je recommanderais « L'art subtil de s'en foutre » de Mark Manson, un guide à contre-courant pour être soi-même qui m'a été offert par Atou, qui travaille à l'Hostal. Et c'est un livre donc qui s'oppose complètement au développement personnel, qui a tendance à un peu étouffer la littérature, si je ne m'abuse en ce moment. Voilà.
Merci. Juste 2 annonces pour terminer. D'abord, le Salon du Livre d'Esprit Occitanie, qui se tiendra samedi prochain, le 25 juin, de 14h à 18h au Jardin des Plantes, avec et dans le festival de San Juan organisé par l'Hostal d'Occitanie. Et puis, voyons un peu plus loin, si vous êtes libre le samedi 16 juillet 2022 à 21h30 dans la belle ville de Sorèze, Cour des Rouges, eh bien, ce sera dans le cadre des soirées musicales. Vous aurez un Così fan tutte qui vous sera administré par la belle compagnie Opéra Éclaté. Et puis le lendemain, dimanche, vous aurez le Salon du Livre organisé dans ce même Sorèze et dans cette même abbaye par la libraire Anne-Marie Denis, que l'on remercie. Merci à tous, merci à Chloé, merci à Léonore, à Pierre qui nous a quittés, on l'excuse, il avait un rendez-vous, à Jean-François, vous avez tous été parfaits. C'était Ça va mieux, une émission de Jacques Lavergne, avec à la réalisation Manette, Victor, Thomas et puis Tiphaine qui surveillaient ces petits jeunes. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site d'Esprit Occitanie. À bientôt pour une nouvelle édition de Ça va mieux. Merci de votre fidélité. Belle journée, belle soirée à toutes et à tous.